L'homme de Boulevaka.
Et tout de suite, les infos.
Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
Au sommaire de cette édition, situation à Percois, l'équipe de sauvetage a atteint ce matin la deuxième chambre de refuge. Après l'évacuation de l'eau, il ne reste que la boue qui bloque l'entrée de la chambre. Nous retrouvons dans un instant notre envoyé spécial du côté de Percois pour plus de précisions. 5 millions de francs CFA comme salaire mensuel du Premier ministre et plus de 2 millions pour les membres du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement confirme l'information et donne les raisons de cette revalorisation des ministres de la transition. Les étalons juniors défient cet après-midi à 16h, temps universel, les écureuils du Bénin junior pour le compte des demi-finales du tournoi de l'UFOA Zone B. En cas de qualification, les étalons U20 se qualifient pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2023, nous en parlons dans ce journal. Le gouvernement malien dit avoir déjoué un coup d'état militaire dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, orchestré par un groupuscule d'officiers et de sous-officiers, soutenu par un état occidental. Et puis, notre invité est le professeur Lucie Nébier, cardiologue. Avec elle, il sera question de santé, notamment l'hypertension artérielle. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Insécurité au Burkina, les écritures en arabe découvertes hier dans certains établissements privés et publics de la ville de Banfora sont en réalité un appel à la fermeture des établissements non islamiques et qu'il s'agit des menaces contre le système éducatif burkinabé selon le ministère en charge de l'éducation nationale. Tout en condamnant cette nouvelle tentative d'attaque contre l'école burkinabé, le ministère de l'éducation nationale rassure les populations et l'ensemble des acteurs du système éducatif que les autorités administratives régionales et centrales suivent attentivement l'évolution de la situation sécuritaire, peut-on lire dans le communiqué du ministère qui appelle par ailleurs les populations à garder le calme et à ne pas céder à la panique face à ces actes d'intimidation. Situation sécuritaire oblige, le Conseil national de la jeunesse demande aux autorités burkinabées d'accorder une attention particulière à la situation sécuritaire, humanitaire, socio-professionnelle de la jeunesse. Cet échange entre le Conseil national de la jeunesse et les professionnels de l'information s'est tenu le 14 mai dernier à Ouagadougou. Reportage signé Moumouni Tamboura et Jean-Paul Ouedraogo.
La situation sécuritaire délétère qui existe au Burkina Faso préoccupe le Conseil national de la jeunesse qui souhaite apporter son soutien au FDS, au VDP qui se battent quotidiennement pour la mère patrie. Le Conseil a également exhorté les autorités en place à revoir les stratégies de lutte contre le terrorisme et à mieux situer les forces vives de la nation et le peuple sous les objectifs de la transition. Moumouni Diala est le président du Conseil national de la jeunesse.
Que nos camarades qui sont au front, que ce soit FDS ou VDP, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bataille pour la libération de notre pays. Et tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment on pourra libérer le Burkina Faso. Et je pense que chacun pris individuellement a cette bonne intention et à cet objectif, comment je contribue pour libérer donc le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on constate que la situation n'a pas changé où elle se dégrade.
Les conditions de vie des étudiants des universités publiques étaient également l'un des grands axes de la déclaration. Le Conseil des jeunes demande au gouvernement de revoir leurs conditions, en particulier la question du FONER, qui a fait tant de bruit ces derniers temps. Moumouni Diala est le président du Conseil national de la jeunesse.
Nous attendons à ce que la situation des étudiants soit analysée rapidement et qu'une solution soit trouvée. parce que vous savez, la question du FONER est une subsistance pour les étudiants. Aujourd'hui, grignoter sur le FONER des étudiants revient donc à dire même qu'il n'y a plus d'universités ou il n'y a plus d'étudiants au Burkina Faso, au regard du fait que la plupart de ceux qui sont des étudiants sont des fils donc du paysan lambda. Parce que ceux qui ont les moyens d'ailleurs n'envoient pas leurs enfants donc au niveau des universités publiques.
Le Conseil national de la jeunesse du Burkina, par la voix de son président, rassure quant à la disponibilité de sa structure à contribuer au développement économique et social des jeunes. Il a également notifié son engagement à travailler à l'épanouissement des jeunes au sein du Conseil en assurant les pleines implications et participation aux instances décisionnelles.
Nos confrères du journal Le Reporter, dans sa parution d'hier, faisaient de grandes révélations sur les rémunérations des membres du gouvernement de la transition. Le journal confiait que le Premier ministre a déjà encaissé plus de 5 millions de francs CFA et les autres membres de son gouvernement plus de 2 millions de francs CFA. Une révélation qui a fait réagir Jacques Sosthène Dingara, secrétaire général du gouvernement, qui confirme certes l'information, mais explique que ces rémunérations sont faites sur des base légale. Écoutons donc Jacques Sosthène Dingara, il était l'invité du journal de 20h de la télévision nationale.
Situation actuelle. Pour l'adapter bien sûr par rapport à la charte de la transition qui exigeait qu'il faut un salaire unique pour tous les membres du gouvernement. Et par rapport à la Constitution, ce qui dit que quand vous êtes fonctionnaire nommé ministre, vous êtes en détachement et que vous ne pouvez pas percevoir un salaire en deçà de ce que vous percevez dans votre emploi d'origine, et pouvoir harmoniser aussi les salaires pour l'ensemble donc de ces ministres, fallait naturellement, courageusement, évoluer et changer effectivement ce test et le rendre beaucoup plus dynamique, comme je l'ai dit, et relié à la grille des agents de la fonction publique, étant entendu que les ministres qui viennent d'être nommés sont des agents de la fonction publique. Voilà un peu l'explication que l'on pourrait donner. C'est un décret qui est effectivement qui était signé. Et comme je l'ai dit, l'avantage de ce décret, c'est qu'aucun ministre ne veut négocier un contrat, aucun ministre ne veut négocier son salaire. Ça, c'est vraiment une avancée significative par rapport donc à l'ancien décret donc de 2008. Et vous adhérez tous les fonctionnaires. Et le deuxième avantage, c'est que ce décret, il est dynamique. Donc il est totalement relié à la grille donc des agents de la fonction publique et suivra l'évolution de cette grille en fonction donc de ce que chacun des agents de la fonction publique percevra donc comme salaire.
Comme salaire. Alors donc ce qui veut dire que ces informations entre griffes sont fondées.
Et effectivement, c'est réel, c'est vrai, avec des bases effectivement légales et reliées aussi à cette grille donc salariale de la fonction publique. Alors ce que on voudrait les rassurer, c'est d'abord que aujourd'hui il faut que l'on aille sur des bases légales. Et comme je l'ai dit, depuis un certain temps, cette question de la rémunération des hautes personnalités fait beaucoup donc de débats autour de ça. Et l'ancien test qui est dépassé, il fallait courageusement, effectivement, et je pense que l'article 19 donc la charte de la transition, c'est au regard donc du diagnostic qui est fait et de cette question justement de disparité, je ne vais pas dire d'iniquité, mais en tout cas de traitement de deux fois deux mesures par rapport donc aux autres personnalités qui étaient posées. Il fallait d'abord élever l'iniquité. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, vous avez un contrat et un salaire unique pour tous les membres donc, du gouvernement.
Parlons à présent de l'affaire de la journaliste de la chaîne de télévision TV5 Monde, expulsée le 14 mai dernier lors de la conférence publique de la COPABF. Après le ministère de la Communication, c'est au tour du Conseil supérieur de la Communication de condamner l'attitude des organisateurs de la conférence. Dans un communiqué rendu public hier, le CSC dit regretter l'expulsion de la journaliste de la chaîne de télévision TV5 Monde le 14 mai dernier lors de la conférence publique co-organisée à Ouagadougou par la Coalition des Patriotes Africains, COPABF, et Urgence Panafricaniste. La manifestation, loin d'être une activité privée, a été organisée dans un espace public ouvert. Par conséquent, rien ne devrait pouvoir interdire à tout journaliste, quel qu'il soit, de s'y rendre pour une couverture médiatique conformément à la Constitution du Burkina Faso, qui garantit les libertés d'expression et de presse ainsi que le droit à l'information, a terminé le Conseil supérieur de la communication. Direction Perkoa, l'équipe de sauvetage à la mine de Perkoa a atteint ce matin la deuxième chambre de refuge, selon des informations de Omega. Après l'évacuation de l'eau, il ne reste que la boue qui bloque l'entrée de la chambre précisent nos sources. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial depuis Perkoa, Abdoulaziz Zoulabou. Alors, Zoulabou, quelle est la situation exacte qui prévaut actuellement au niveau de la mine, vous qui êtes présent sur place?
Alors, il faut quand même dire qu'il y a eu une évolution de la situation au cours de cette nuit écoulée. On peut dire que ce matin, par rapport aux informations que nous avons pu avoir, la chambre de refuge est totalement à vue et l'eau qui la couvrait a été entièrement retirée et elle est actuellement recouverte de boue. Voilà, il y a une couche très importante de boue qui va jusqu'à l'entrée, à bloquer la porte. Et c'est dans le processus de l'extraction de cette boue alors que les équipes s'attellent actuellement. Et si tout fonctionne normalement, en principe, d'ici quelques heures, les voies seront bien dégagées et la chambre, disons la porte de cette chambre pourrait être ouverte. Du côté des autorités, pour le moment, rien n'a filtré. Et ils ont même donné rendez-vous au niveau du Haut Commissariat du Sanguier pour voilà où se tient quotidiennement le point de la situation. Il faut également noter que le site de la mine est interdit d'accès et notre équipe qui était sur place au cours de la matinée a même reçu l'ordre de rejoindre le Haut Commissariat du Sanguier. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut retenir. Côté famille, on peut dire qu'il y a toujours un grain d'espoir qu'on peut percevoir sur les visages, en attendant que peut-être une situation contraire ne s'amène. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir par rapport à la situation actuellement.
Merci beaucoup à Abdoulaziz Zoulabou pour ces précisions et l'on apprend également que des mesures sanitaires sont prises au sein de la mine grâce au ministère de la Santé qui a fait parvenir sur le site des ambulances et une trentaine d'agents de santé en cas d'urgence, un dispositif sanitaire et d'évacuation est sur place pour une prise en charge rapide des 8 mineurs dont on est sans nouvelles depuis l'inondation. Tout autre chose dans ce journal, hier a eu lieu à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des chargés de suivi, évaluation des statistiques de l'alphabétisation non formelle des pays membres de la Fondation 40A. L'objectif global est de renforcer les capacités des acteurs dans la production des données statistiques sur le sous-secteur de l'éducation non formelle. Reportage signé Bethany Bambara avec la voix de Valérie Guéret.
23 agents de l'éducation nationale à l'école de la production des statistiques sur le sous-secteur de l'éducation non formelle. Cet atelier qui s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou et qui se poursuivra jusqu'à mercredi permettra d'outiller ces acteurs sur la collecte, l'analyse et le traitement des données afin qu'ils puissent être en mesure de produire des éléments fiables. Jean-Noël Tagnabou, chargé des missions du ministère en charge de l'éducation.
Tout ce qui va être fait, mais globalement, la question d'analyse des données, je dirais d'ailleurs la question de récolte des données, de l'analyse, de la présentation, afin de générer un rapport qui permet de comprendre comment se porte le sous-système de l'éducation non formelle, sera fait. Bref, il s'agit de donner toute l'armature nécessaire aux chargés de suivi évaluation pour que à terme les données qui seront récoltées puissent être facilement interprétées et exploitables.
Cette activité est accompagnée par la Fondation 40A qui a pour mission principale d'assister les ministères en charge de l'éducation nationale de ses pays membres. Kira Seizio, directeur non formel Point Focal 40A.
40A est un organisme international de droit public qui a pour rôle d'appuyer les différents États, notamment à travers les ministères en charge de l'éducation non formelle, pour améliorer les offres d'éducation non formelle. C'est d'accroître donc l'offre en éducation non formelle, c'est d'améliorer la qualité donc de l'éducation non formelle et c'est mobiliser tous les acteurs donc autour des idéaux donc de l'éducation non formelle.
Selon le chargé des missions, les statistiques actuelles de l'éducation non formelle présentent un bilan non satisfaisant au regard du nombre d'enfants non scolarisés. Le taux national d'alphabétisation n'atteint toujours pas 50% au Burkina Faso.
À l'international, le gouvernement malien a annoncé hier avoir déjoué un coup d'État la semaine dernière, orchestré par, dit-il, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens. Écoutons donc un extrait du porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga.
Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressiste malien a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme.
Omega Sport.
En sport, les étalons juniors défient cet après-midi à 16h temps universel les écureuils du Bénin junior pour le compte des demi-finales du tournoi de l'UFOA Zone B. Un match déterminant pour les hommes de coach Brahma Traoré qui ont la chance de décrocher en cas de victoire non seulement la qualification pour la finale de la compétition, mais également d'arracher leur ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des juniors Égypte 2023.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour se prononcent sur la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et dans la sous-région. Au plan sous-régional, c'est le retrait du Mali du G5 Sahel et de la force conjointe qui cristallise l'attention des éditorialistes. La revue de presse de ce mardi est présentée par Brigitte Yoda.
Crise sécuritaire au Burkina pour commencer. Pour l'Express du Faso, le langage des armes n'est pas forcément le mieux adapté dans le combat qu'il qualifie de rivalité entre ceux qui disent combattre pour la cause de Dieu et ceux qui luttent pour leur patrie. Estimant que les terroristes ont compris que les Burkinabés sont plus que jamais divisés, que ce soit dans les milieux politiques, de la société civile, des syndicats et même de l'administration, notre confrère appelle les Burkinabés à l'introspection car, dit-il, les solutions à cette crise se trouvent en eux-mêmes. Et si on négociait une trêve, suggère le journal Bobolais, pour qui un sursaut patriotique, entre parenthèses hypothétique, des Burkinabés pourrait permettre de renverser la situation. Attention à l'auto-victimisation, s'exclame le pays à propos du retrait du Mali du G5 Sahel. À force de toujours s'estimer lésé et de dénoncer systématiquement les accords bilatéraux et multilatéraux, le risque est grand pour le Mali de s'isoler dans ce combat contre l'hydre, commente le journal des 1200 logements. Utilisant le même langage que les autorités maliennes avaient tenu lorsque Barkhane a annoncé son retrait progressif du Mali, l'Express du Faso pense aussi que le Mali abandonne le G5 Sahel en plein vol, car le retrait du Mali du G5 va fragiliser la lutte commune engagée contre les groupes armés terroristes. Et maintenant, on fait quoi ? Questionne aujourd'hui au Faso pour qui il faut que les quatre pays restants convoque un sommet extraordinaire pour jauger l'avenir. Selon le pays, il est temps de penser à une entité beaucoup plus large au moment où, après le Sahel, les pays du littoral sont devenus un objectif pour les terroristes. Terminons par l'opération de sauvetage des 8 mineurs à la mine de Perkoa. Après un mois de course contre la montre, les sauveteurs ont pu finalement atteindre le bunker souterrain dans la soirée d'hier. Mais ils n'ont pas pu voir l'intérieur à travers la vitre à cause de l'épaisse couche de boue qui ensevelit la forteresse de tous les espoirs, relate l'observateur Palga, pour qui c'est toute la nation qui retient son souffle. Le miracle de Perkoa aura-t-il lieu ? se demande le doyen des quotidiens. En attendant, la question reste posée.
L'invité du jour. L'invité du jour.
1,13 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde à l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle célébrée aujourd'hui. Le professeur Lucie Nébier, cardiologue, invite donc les patients à se faire dépister et à adhérer au traitement. Elle répond aux questions de Valérie Guéret.
Professeur Lucie Nébier, bonjour.
Bonjour à Radio Omega.
L'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est?
Il s'agit d'une élévation de la pression artérielle, donc la pression dans les artères. Communément, nous l'appelons HTA. Pour l'évaluer, il faut donc utiliser le tensiomètre, qui permet de prendre les deux chiffres, à savoir le premier chiffre qui est la tension artérielle systolique et la tension artérielle diastolique.
Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle?
Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord les causes héréditaires, où on hérite d'un des parents, c'est le plus fréquent. Et habituellement, lorsqu'on fait un bilan, on ne trouve pas grand-chose. Maintenant, il y a les autres causes qui se rajoutent, qui peuvent être des causes toxiques, des causes de rétrécissement de certaines artères des reins, d'autres causes éventuellement d'utilisation intempestive de certains produits. Donc les causes qu'on peut éradiquer ou on peut essayer de traiter, ils font que 5, maximum à 10%. Et là, il faut rechercher les causes rénales, surrénaliennes. Il faut éventuellement chercher une intoxication par la consommation excessive de certaines friandises d'autres aliments. Maintenant, les 90 à 95%, c'est les causes héréditaires et que l'on ne peut pas donc traiter. C'est-à-dire le traitement reste permanent et c'est ce que vous n'aimez pas entendre lorsqu'on dit que le traitement est à vie. Mais malheureusement, quand on n'a pas retrouvé une cause, on ne peut pas arrêter le traitement, donc le traitement reste permanent à vie.
On parle d'hypertension et d'hypotension artérielle. Comment ça se passe concrètement?
On revient toujours à nos normes. On dit que quelqu'un est hypertendu lorsqu'on atteint le premier chiffre déjà, 140, c'est-à-dire 14 cm de mercure ou 140 mm de mercure. Et lorsque le deuxième chiffre aussi, parce qu'on peut avoir juste une hypertension du deuxième chiffre, lorsque l'on dépasse 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure. Donc 14-9. Ce que communément les gens utilisent, ou 140-90, lorsqu'on dépasse ces normes, on devient hypertendu. L'hypotension artérielle, par contre, c'est le contraire. C'est des gens qui ont des tensions très basses, donc souvent inférieures à 10, inférieures à 7 ou 8 de l'autre côté, mais c'est surtout la systolique dans l'hypotension artérielle qui leur donne des malaises. Et là, nous ne considérons pas vraiment comme des maladies, parce qu'une hypotension artérielle, c'est vrai, elle baisse le tonus, elle fatigue, mais ce n'est pas une vraie pathologie que nous traitons couramment.
La consommation de certains aliments, comme les bouillons, favorise-t-elle l'hypertension?
Je pense que ça a été un gros débat, mais ce n'est pas tellement le contenu, parce que le contenu, parfois, c'est plus ou moins bien fait selon les industries, mais c'est surtout la concentration en sel. En Afrique, on voit qu'on met les bouillons, on met le sel, on met tout. Et en fait, c'est la concentration du sel qui pose problème. Alors que comme eux, ils sont déjà concentrés en sel, il faut que les femmes fassent attention ou bien diminuer la quantité de sel.
Et quelles sont les conséquences de l'hypertension?
On a plusieurs conséquences. Les plus graves, c'est d'abord l'accident vasculaire cérébral. La tension monte, la personne se paralyse d'un côté. Ça, c'est vraiment l'AVC classique. Nous avons deuxièmement l'insuffisance cardiaque, parce qu'à force de pousser, après le cœur est fatigué et il fait une insuffisance cardiaque. Troisièmement, il peut atteindre les yeux. On peut avoir brusquement une cécité due à une pression artérielle trop élevée. Quatrièmement, on a les insuffisances rénaux. Ça, c'est le plus fréquent.
Le 17 mai, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'hypertension. En quoi cette journée mondiale peut aider à lutter contre la maladie?
Toujours sensibiliser les gens. Il faut qu'ils se dépistent. Il faut qu'ils prennent leur tension. Et le pire, c'est de ne pas prendre la tension, savoir que c'est élevé et puis se cacher. Ou bien se dire qu'on ne prend pas les produits. Mais surtout, accepter de se faire traiter lorsqu'on dit que la tension est élevée. Il faut que les gens acceptent. Voilà. Donc cette campagne-là, vraiment, c'est de faire mieux connaître l'hypertension.
Comment se fait le traitement?
Le traitement, d'abord, il faut faire le bilan pour voir, en dehors de l'atteinte hypertension qui est élevée, est-ce qu'il y a déjà des complications? C'est pour ça que vous nous verrez en premier bilan où on regarde un peu partout, on fait les fonds d'œil, on fait les échos des reins, on fait les échos cardiaques. C'est pour déjà cerner la maladie et ses complications déjà. Alors, dès qu'on a déjà fini ça, on essaie de voir maintenant si c'est une hypertension qui vient juste sans aucune complication, juste un comprimé. Maintenant, il y a tellement de produits, on peut les équilibrer comme on veut, on peut les mélanger. Maintenant, de plus en plus, il y a des mélanges fixes qu'on peut mettre de façon initiale et surveiller progressivement la pression artérielle.
Des conseils pour les malades?
Adhérer au traitement. Si ça ne vous convient pas, qu'on puisse changer. Dépistez-vous. Vous avez des céphalées, des vertiges, vous avez des visions un peu en mouche volante là, vous avez fait un malaise, prenez votre tension. Lorsqu'elle est élevée, consultez votre cardiologue. En passant régulièrement chez son médecin, en avalant régulièrement son traitement. Lorsqu'il y a des effets secondaires, vous approchez les médecins pour qu'ils changent votre traitement ou diminuent la dose. Mais n'essayez pas d'arrêter tout seul ou bien n'essayez pas aussi de prendre le médicament du voisin parce qu'apparemment le voisin, ça va mieux. On a tellement de méthodes maintenant avec des appareils sur 24 heures qui permettent de voir si réellement vous êtes hypertendu ou pas. Et si on dépiste ça réellement, on met un traitement en place où on vous suit. Et lorsque c'est tout est cool, là, c'est une, maximum deux fois dans l'année qu'on vous revoit. C'est un contrôle, sauf s'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tous ceux qui sont bien stables, ils passent nous voir tous les 6 mois. Pas plus de 2 fois dans l'année. Essayez en plus aussi d'ajouter l'hygiène alimentaire. L'histoire d'alcool excessif, de tabac excessif, de manger très salé de façon excessive. Tout ça, c'est bien. Mais à un certain âge, il faut qu'on arrive à maîtriser notre hygiène de vie. C'est ça qui va nous amener loin.
Professeur Lucie Nébier, je vous remercie.
Merci Radio Omega.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Fidel Compaoré. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Au niveau du live Facebook, Ibrahim Niaouné. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, des infos.